Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sidoudia, bonjour. Au Mali, attaque à la voiture piégée hier contre un véhicule de la force anti-djihadiste française Barkhane dans le centre du pays. 6 militaires français et 4 civils maliens, dont un enfant, ont été blessés, selon l'état-major français, qui précise que le pronostic vital des blessés évacués vers les hôpitaux militaires de Gao et Gossi n'est pas engagé. Au Burkina Faso voisin, 11 djihadistes ont été tués et 3 bases terroristes détruites entre le 14 et le 16 juin lors d'une opération anti-djihadiste dans les régions de l'Est, a annoncé hier l'armée burkinabé. Sur la base de renseignements précis, une opération a été conduite par des unités du groupement de forces du secteur Est pour démanteler ces bases, selon l'état-major burkinabé, qui ajoute que l'opération a consisté en un engagement aéroterrestre. Pour revenir sur le Mali, l'ex-premier ministre de la transition, Mokhtar Ouane, a reçu hier à Bamako une délégation de personnalités. Selon l'une d'elles, il a confirmé que l'ancien président de la transition, Bandao, et lui étaient en résidence surveillée depuis fin mai. Après le second putsch mené par le colonel Assimi Goïta et les militaires restés maîtres du pouvoir. Libye, l'émissaire spécial américain Richard Norland a dit à des journalistes hier que Washington discutait avec certains des acteurs clés du retrait des forces étrangères, mercenaires et combattants étrangers en amont des élections présidentielles et législatives de décembre prochain. Selon M. Norland, l'un des principaux enjeux du scrutin était de mettre en place un gouvernement légitime, crédible et au plein pouvoir, afin qu'il puisse contraindre les acteurs étrangers à retirer leurs soldats de Libye. Ce sera un développement très important, mais nous ne suggérons pas qu'il faille attendre l'année prochaine pour tenter d'effectuer des progrès, a-t-il dit. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken participe cette semaine à Berlin à une conférence sur la Libye. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, un organe destiné à garantir un prix rémunérateur aux planteurs, a tenu sa première réunion ce lundi à Abidjan et affiché sa volonté de sortir les producteurs de la pauvreté. Ces deux pays représentent ensemble environ 60% du cacao mondial. Les présidents congolais Denis Sassou Nguesso et chinois Xi Jinping ont convenu hier, lors d'un entretien téléphonique, de restructurer pour la deuxième fois la colossale dette congolaise envers Pékin qui empêche ce pays d'Afrique centrale de reprendre des négociations avec le Fonds monétaire international, a appris l'AFP de sources officielles. En RDC voisine, les évêques catholiques et les autorités de Kinshasa ont plaidé hier pour une compensation des populations pour leurs efforts de sauvegarde des forêts du pays, deuxième poumon mondial de la planète. C'était à l'ouverture d'une session organisée par la Commission épiscopale pour les ressources naturelles. L'Afrique du Sud a annoncé ce lundi la première étape pour doter le continent d'une capacité de production de vaccins anti-Covid. Il s'agit de mettre en place un centre de transfert de technologie pour les vaccins anti-Covid à ARN messager qui se sont révélés extrêmement efficaces, à l'instar des sérums de Pfizer-BioNTech ou Moderna, et qui semblent aussi plus facilement adaptables à de nouveaux variants que d'autres vaccins de technologies différentes. Le candidat vaccin Abdallah, développé par Cuba contre le coronavirus, le premier créé en Amérique latine, affiche une efficacité de 92,28% contre la maladie au bout de 3 doses, a annoncé lundi le laboratoire qu'il a mis au point. 3 jours après son élection à la présidence en Iran, l'ultra-conservateur Ibrahim Raisi a déclaré lundi qu'il n'autoriserait pas des négociations pour le plaisir sur le dossier nucléaire et a refusé une éventuelle rencontre avec Joe Biden. La suite de nos informations. Les Éthiopiens ont voté en nombre et dans le calme lundi dans des élections législatives repoussées à deux reprises. Un scrutin qui s'est déroulé dans un contexte de guerre dans la région du Tigré. Le point avec Abdulrahman Dia.
Face à l'affluence, la commission électorale a prolongé le vote de 3 heures. Dès le petit matin, les files d'attente devant les bureaux de vote étaient longues dans la capitale Addis Abeba comme à Bahir Dar, principale ville de la région Amara. Les électeurs ont parfois dû patienter plusieurs heures pour pouvoir voter. Dans ce pays qui fait pourtant face à une explosion des violences politico-ethniques ces dernières années, la journée s'est déroulée globalement dans le calme. La commission électorale a toutefois fait état de plusieurs incidents, comme l'intimidation de représentants de partis politiques dans 3 régions, dont l'Amara. Le principal parti d'opposition Ezema, du candidat Beranu Nega, a affirmé avoir signalé 207 incidents à la commission électorale, allant de soupçons de manipulation d'urne à des observateurs empêchés d'accéder à certains bureaux de vote. Le parti de la prospérité du premier ministre Abiy Ahmed, qui compte le plus grand nombre de candidats au Parlement, est le grand favori pour remporter une majorité. Un cinquième des 547 circonscriptions du pays n'ont pas pu voter à cause des violences. La majorité de ces zones vont voter le 6 septembre, mais aucune date n'a été fixée pour les 38 circonscriptions du Tigré.
Une crise nutritionnelle et alimentaire majeure se profile chez les enfants de la région de Maradi au Niger et dans le nord-ouest du Nigeria voisin, a alerté l'ONG Médecins Sans Frontières. Le point avec Rosine Mounezero.
Médecins Sans Frontières s'inquiète du nombre d'enfants sévèrement malnutris depuis le début de l'année, qui a augmenté de 34% par rapport à 2020. Le nombre de ceux qui ont été admis en état critique a bondi de 46%, notamment à l'hôpital de Madarumfa. Selon MSF, le nombre d'enfants souffrant de malnutrition en provenance du Nigeria, pris en charge dans les centres de santé soutenus par l'ONG à Madarumfa, a augmenté d'environ 90% cette année. Une situation extrêmement préoccupante selon MSF. Une crise nutritionnelle et alimentaire majeure semble se profiler et la priorité aujourd'hui est donc de s'y préparer au mieux, a déclaré Issiaka Abdou, responsable des opérations MSF en Afrique de l'Ouest. MSF se mobilise pour élargir ses activités à Maradi, dans le sud du Niger, et dans l'état de Katsina, dans le nord du Nigeria, pour faire face à la période de soudure et au pic saisonnier du paludisme qui s'annonce dévastateur cette année.
L'ex-président Laurent Gbagbo, revenu jeudi en Côte d'Ivoire après 10 ans d'absence, a déposé lundi au tribunal d'Abidjan une demande de divorce d'avec son épouse Simone Gbagbo. Les détails avec Michel Joseph.
Laurent Gbagbo annonce qu'en raison du refus réitéré depuis des années de Dame Simone et Yves de consentir à une séparation amiable, il s'est résolu à saisir le juge des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d'Abidjan d'une demande de divorce, a écrit son avocat, Maître Claude Mantenon, dans un communiqué. Le couple s'était marié en janvier 1989 et a eu 2 filles. Ils ont été ensemble de fervents opposants à Félix Houphouët-Boigny, premier président ivoirien, et se sont battus ensemble pour le multipartisme. Laurent Gbagbo, qui a été président de 2000 à 2011, et Simone Gbagbo, ont été arrêtés ensemble en avril 2011 après leur refus de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle. Peu après, Laurent Gbagbo a été transféré à La Haye pour être jugé devant la CPI qu'il a acquitté en mars dernier. Simone Gbagbo a été condamnée en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison et a été amnistiée en 2018 et libérée après 7 ans de détention. Laurent Gbagbo, 76 ans, vit en couple depuis longtemps avec Nadi Bamba, une ex-journaliste qui est rentrée avec lui jeudi en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo, 72 ans, s'est rendue à l'aéroport d'Abidjan pour accueillir son mari. Elle a échangé quelques mots avec lui au milieu de la foule, mais a rapidement quitté les lieux.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le sommet de la communauté de développement d'Afrique australe se tiendra mercredi à Maputo, Mozambique, pour son 40e anniversaire. Ce mardi, les ministres des Affaires étrangères revoient les 2 candidatures au poste de secrétaire exécutif de la SADC. Faute de consensus entre le Botswana et la République démocratique du Congo, le sommet devra trancher en contraignant l'un des États à se retirer ou en décidant de la tenue d'élections, ce qui serait une première. Le groupe sud-africain d'e-commerce et de médias Naspers Limited a annoncé une hausse de 24% de ses bénéfices au premier trimestre 2021 grâce à son investissement dans la société chinoise Tencent Holdings. Le géant africain du net affirme que sa participation de 28,9% dans cette société via sa filiale Process aux Pays-Bas a vu son bénéfice progresser de 33%.
Merci Nathalie, et maintenant les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le tribunal arbitral du sport a réduit à 5 ans la suspension pour corruption de l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Nigeria, Samson Siasia, dans une affaire de rencontre arrangée. La juridiction a estimé disproportionnée la suspension à vie infligée en avril 2019 par la FIFA au technicien de 53 ans accusé d'avoir accepté en 2010 de se joindre à une tentative de manipulation de match. Le TAS a aussi annulé l'amende de 50 000 francs suisses prononcée par la FIFA. Sa suspension prendra donc fin en 2024. Éphémère sélectionneur du Nigeria entre 2010 et 2011, l'ancien attaquant a disputé le mondial 1994 aux États-Unis. Samson Siasia a été épinglé suite à des investigations menées autour des manipulations de match en lien avec des paris sportifs selon la FIFA. Des nouvelles de l'Euro, les différentes équipes effectuent leur dernière sortie dans la phase de groupe. Le groupe D joue ce soir, l'Angleterre et la République tchèque en tête de cette poule s'affrontent tandis que l'Écosse et la Croatie croisent les crampons. Hier, dans la poule B, la Belgique, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, est venue à bout de la Finlande 2-0 au terme d'un match longtemps indécis à Saint-Pétersbourg. Avec cette défaite, la Finlande n'a plus son destin en main et devra attendre pour savoir si elle doit accéder aux huitièmes de finale comme l'une des meilleures troisièmes. Dans l'autre match du groupe B, le Danemark, large vainqueur de la Russie, 4-1, s'est qualifié pour les huitièmes de finale en terminant deuxième derrière la Belgique. La Russie est éliminée. Dans la poule C, l'Autriche est sortie pour la première fois des poules d'un euro après sa victoire 1-0 à Bucarest contre l'Ukraine, qui doit aussi attendre le classement des meilleurs troisièmes pour connaître son sort. L'Autriche affrontera l'Italie en huitième de finale à Wembley le 26 juin. Dans l'autre rencontre du groupe C, déjà assuré de la première place de cette poule, avant le coup d'envoi, les Pays-Bas n'ont fait qu'une bouchée de la Macédoine du Nord 3-0. Ici aux États-Unis, la Cour suprême a ouvert la voie à une rémunération des athlètes universitaires actuellement privés de tout salaire. Les juges étaient appelés à se prononcer sur l'attribution à ces sportifs d'avantages de nature éducative, ordinateurs, équipements scientifiques, instruments de musique. Ils ont jugé à l'unanimité que les limites fixées en la matière par l'Association nationale des athlètes universitaires violent les lois antitrust. Les juges rappellent qu'en 2016, les premières divisions de football américain et de basket universitaire ont généré 13,5 milliards de dollars de revenus. Pendant ce temps, les sportifs bénéficient seulement d'une prise en charge du coût de leurs études et parfois d'une prime de performance plafonnée à 5 980 dollars par an. 8 États ont adopté des lois afin de rémunérer les athlètes universitaires pour l'utilisation de leur nom et de leur image en dehors des terrains.
Merci, Yakuba. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'édition 2021 de la Journée mondiale du réfugié a été commémorée ce dimanche 20 juin. Confronté au terrorisme à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières, le Niger compte plus de 240 000 réfugiés. Parmi cette population, on dénombre des milliers de déplacés internes. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa est allé à la rencontre d'une catégorie de ces déplacés. Ils sont en dehors du dispositif de prise en charge et protection. Les déplacés internes oubliés, c'est le titre de son reportage.
Âgé de 45 ans, Moussa Boubacar a fui avec sa famille il y a près de 2 ans leur village situé dans la commune de Bani Bangou dans la zone des trois frontières. Depuis, il vit dans la périphérie de Niamey, la capitale nigérienne, où il s'adonne à de petits métiers loin de ses troupeaux. Je travaille parfois comme manœuvre, parfois briquetier. Nous tous qui sommes ici, c'est cela notre boulot et c'est ici que nous l'avons appris parce que nous sommes à l'origine des éleveurs. La peur d'être poursuivi, même dans les camps de réfugiés et déplacés situés dans les zones pas trop loin de leur village, justifie, selon son épouse, leur choix de s'installer à Niamey. Nous nous sommes dit qu'il fallait aller loin pour éviter que les bandits nous retrouvent et finir avec ceux d'entre nous qui restaient encore en vie. Ils sont une centaine de chefs de famille qui sont dans la même situation que Moussa. Le seul soutien qu'ils avaient jusqu'ici semble lui aussi être à bout d'effort. Boubacar Diallo, président du Conseil des éleveurs Nord Tillabéri.
On est obligé de temps en temps de faire des collectes au niveau du Conseil des éleveurs pour leur venir en aide. Et ça, ça ne peut pas continuer parce que le nombre ne fait que ça, et en tout cas... Et on a l'intention d'aller voir au niveau de la Croix-Rouge pour les informer du cas de ces réfugiés. Parce qu'on a deux tribus qui sont ici. Il y a ceux de Ouédébangou et de Bissau qui sont actuellement là. Donc vraiment, moi, je peux estimer, en termes de famille, plus d'une centaine de familles qui sont éparpillées dans la ville de Niamey. Parce qu'en dehors d'ici, au niveau de la rive droite aussi, nous avons d'autres, en tout cas, ressortissants de Ouédébangou. Ceux qui sont là. Vraiment, c'est des gens qui vivent difficilement et ils font pitié.
En attendant le retour de la paix pour qu'ils regagnent leur village, ces déplacés oubliés ne rêvent que d'être eux aussi pris en compte dans le dispositif de prise en charge et de soutien de l'État et de ses partenaires humanitaires. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Dans le nord du Cameroun, les conseils des chefs traditionnels étaient habituellement composés uniquement d'hommes, mais au cours des deux dernières années, ils se sont ouverts aux femmes. Certaines sont pionnières dans la lutte contre le mariage précoce dans une région où la majorité des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Reportage de Moki Edwin Kinzeka et Anne Zouanke à Mokolo au Cameroun. Le récit est de Mohamedou Humfa.
Il y a 2 ans, les parents de Fadimatou Adamou ont arrangé son mariage à l'âge de 16 ans avec un homme 2 fois plus âgé qu'elle. Son mari la battait souvent jusqu'à ce qu'elle soit secourue par les premières femmes chefs de la région.
Comme ça, j'ai souffert là-bas. Je n'ai même pas quoi manger. J'ai souffert à Djakaïga qui m'a amené, qui a donné à ma grand-sœur l'argent, à Isat qui allait m'amener ici.
Les conseils des chefs traditionnels du Cameroun sont habituellement constitués d'hommes. Mais ces 2 dernières années, 11 femmes comme Hadja Kaigama Saïdou ont été nommées chefs adjoints, alors qu'elles sont toujours sous la direction d'un chef de sexe masculin de rang supérieur. Hadja Kaigama affirme qu'avec leur nouveau rôle, elles peuvent aider à faire plus pour les femmes.
Avec les femmes, on leur a expliqué comment elles peuvent même... et exprimer leurs besoins à travers nous au niveau de la chefferie, les violences faites aux femmes. Elles ont des problèmes, elles n'arrivent pas à exprimer, c'est à travers nous qu'elles expriment leurs besoins.
Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, alors que plus d'un tiers des filles camerounaises sont mariées avant l'âge de 18 ans et ne vont pas à l'école, ce taux grimpe à 60% dans le nord du pays. L'étudiante Aïssatou Tchanigui est tombée enceinte à l'âge de 15 ans. Ses parents voulaient la retirer de l'école et la marier, mais les femmes chefs les ont convaincues du contraire.
Elles ont venu causer avec eux pour les convaincre, même si j'ai un enfant, si eux, mes parents ne m'abandonnent pas, j'ai le droit, j'ai toutes les chances du monde de réussir.
Il aura fallu 4 ans de lobbying de l'Association des femmes et des filles de la région de l'Adamawa pour que les chefferies acceptent de s'ouvrir aux femmes. La présidente de cette association, la FADA, Françoise Baba, fait savoir que depuis 2019, les femmes chefs ont aidé des centaines de femmes et des filles victimes de violences à accéder aux soins de santé et à l'éducation.
Dans un village où nous avons désormais nos femmes notables, les retours qui nous sont revenus de l'école, c'est que le taux de scolarisation des jeunes filles a augmenté de 40%. Pour cette année scolaire qui s'achève.
La FADA affirme qu'elle continuera à faire pression pour qu'il y ait plus de femmes chefs afin de réduire les inégalités de genre au Cameroun.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Tanzanie veut maintenant rejoindre le système COVAX. Le gouvernement a averti les citoyens d'une troisième vague de COVID-19 et a ordonné que toutes les précautions soient prises, y compris le port du masque. C'est une rupture avec l'ancien président John Magufuli, qui avait presque nié l'existence du coronavirus. Reportage de Charles Kombe à Dar es Salaam. Le récit est de Michel Joseph.
S'adressant à des journalistes samedi, le directeur de la prévention du ministère tanzanien de la Santé, Leonard Soubi, a insisté pour que les citoyens prennent toutes les précautions pour se protéger.
Wizara imeanza kuona viashiria vya kutokea kwa wimbi la tatu la mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19 katika nchi yetu. Hii ni kutokana na taarifa za ufuatiliaji.
Les citoyens ne doivent pas ignorer le COVID. Le ministère a commencé à avoir une indication de l'apparition d'une troisième vague. Cela est dû au rapport de surveillance de la maladie effectué par le ministère et à l'interaction entre les Tanzaniens et d'autres pays de la région.
En avril l'année dernière, la Tanzanie avait cessé de publier les données sur le COVID-19. Le président de l'époque, Feu John Magufuli, disait que Dieu avait protégé son pays de toute infection. Peu de temps après sa mort, en mars dernier, la nouvelle présidente Samia Hassan a entamé un changement dans la gestion du coronavirus, notamment en admettant sa présence. Des politiciens de l'opposition, tels que Yeriko Nyerere du parti Chadema, affirment que le gouvernement devrait mettre l'accent sur le contrôle des mouvements, en particulier dans la région frontalière de l'Ouganda, fortement touchée.
Les zones qui ont des interactions avec des pays voisins comme l'Ouganda, où il y a une montée des cas, devraient appliquer des contrôles plus rigoureux, si possible, voire même fermer la frontière avec l'Ouganda.
Les Tanzaniens sont d'accord pour appliquer les campagnes de prévention à l'échelle nationale. Imani Henrik est résident de Dar es Salaam.
Nadhani serikali ingewekwa mpango wa pamoja kama ilivyokuwa awali, watu wavae barakoa, waoshe mikono.
Le gouvernement devrait mettre en place une stratégie inclusive en encourageant les gens à porter le masque et à se laver les mains, à prendre les précautions. Jusque dans les villages où souvent les gens ne savent rien des mesures de précaution et ne peuvent même pas se permettre des masques faciaux. Le gouvernement devrait proposer un plan incluant la distribution de masques gratuits dans les villages.
Pour Ibrahim Tchawé, résident de Dar es Salaam, les choses ont changé, y compris dans la publication des données sur le COVID-19.
Publier des informations sur COVID-19 et dire aux gens de prendre des précautions, c'est un grand pas par rapport à la période précédente où le port du masque n'était pas obligatoire ni la façon dont les infections étaient traitées.
Depuis que la présidente Samia Hassan a pris ses fonctions en mars, elle a cherché à mettre progressivement la Tanzanie en conformité avec les normes mondiales pour lutter contre le COVID-19.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À New York, les électeurs se rendent aux urnes aujourd'hui dans des élections primaires en vue de choisir leur candidat à la mairie de la capitale financière des États-Unis. Le maire sortant, Bill de Blasio, ne peut pas se représenter après deux mandats. Ces primaires seront suivies par une élection le 2 novembre prochain. Reportage d'Arash Arabassadi de la VOA à New York. Le récit est de Eric Manirakidza.
La discussion a vite tourné au duel des deux chefs de file, Andrew Yang et Eric Adams, président de l'arrondissement de Brooklyn. C'était dans un débat entre les 8 principaux candidats démocrates à la mairie de New York. Andrew Yang.
Nous savons tous que vous avez fait l'objet d'enquêtes pour corruption partout où vous êtes allé. Ville, État, même le ministère de la Justice de Barack Obama a enquêté sur vous. Vous avez atteint le rare record des enquêtes pour corruption.
Adams a nié tout acte répréhensible et a mis en doute l'engagement d'Andrew Yang pour la ville de New York.
Vous ne votez pas du tout aux élections municipales. Je ne sais pas. Comment diable pouvons-nous vous faire devenir notre maire avec un tel bilan? Comment pouvez-vous gouverner une ville diversifiée comme celle-ci? Je ne comprends tout simplement pas.
Loin de ces querelles, les New-Yorkais parlent des questions qu'ils tiennent à cœur. Iman Abdul Fattah.
La situation des ordures, si vous regardez n'importe où dans cette ville, dans n'importe quel arrondissement, il n'y a presque pas de collecte régulière des poubelles.
Et Rebecca Victor habite à New York.
La réforme de la police. Je sais que beaucoup de gens de mon âge s'intéressent à la suppression de la police. Peu de candidats sont en faveur de cela.
Bill Whitaker dresse ses priorités. Economic
fairness. L'équité économique signifie donner une chance aux pauvres.
Give poor folks a shot.
Chad Chinquengrana vise un autre intérêt.
L'éducation est sans doute le plus important en tant que parent et professeur.
Carol Robbins habite également à New York.
Je me soucie de la qualité de vie à New York et cela inclut les bruits inutiles.
Maria Ordóñez est candidate au conseil municipal démocrate.
Il est vraiment important que nous nous occupions de la crise du logement à laquelle nous sommes confrontés et que nous nous battions pour des logements vraiment abordables.
Candace Stewart pourrait également voter.
La question la plus importante pour moi est la sécurité de nos rues en particulier. Nous avons toutes sortes de motos illégales, de scooters, de vélos électriques. Traverser la rue est devenu une sorte de jeu de hasard.
David Elcott, professeur à l'Université de New York, estime que cette course va au-delà d'une seule question. Selon lui, il s'agit plutôt d'une lutte de pouvoir entre les démocrates de l'establishment et les progressistes qui souhaitent un changement plus rapide.
Nous n'avons pas beaucoup regardé du côté des démocrates, où vous avez une préoccupation égale entre ceux qui essaient de soutenir les institutions, de les réviser, et ceux qui disent plus radicalement, nous avons des défauts structurels et de la corruption, et le système lui-même est entaché et doit être renversé.
Dans ce cycle électoral, la ville de New York utilise ce qu'on appelle le vote par ordre de préférence. Au lieu de choisir un candidat, les électeurs établissent une liste de leurs principaux choix dans l'ordre. Esther Fuchs enseigne à l'Université de Columbia.
You cannot game this race.
Rien n'est joué dans cette élection. Personne ne peut prédire le résultat. Les gens ne savent vraiment pas qui va gagner. Et les sondages n'ont pas vraiment été très efficaces pour déterminer, sauf peut-être, qui sont les 5 principaux favoris.
Pour Esther Fuchs, le vote des New-Yorkais sur des questions telles que la sécurité et la réforme de la police peut être un indicateur sur les futures élections dans tout le pays.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, Claire Morin-Gibourg avec vous. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Pour faire la fête, avez-vous dansé? Quelle est votre musique préférée et pourquoi? Quels sont les musiciens et artistes qui vous font vraiment bouger? Lorsqu'on sait que la musique n'a pas de frontières, qu'est-ce qui fait danser le plus dans votre pays, les musiciens locaux ou étrangers? Venez partager vos coups de cœur en direct dans À votre avis à 18h05 temps universel sur l'antenne de VOA Afrique. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À ce soir, 18h05 temps universel.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebunia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24/7.